Chapitre 16. Le secret de Bill. Bill, Wayne et Cheyenne étaient dissimulés derrière les barrières du pont de la Tournelle, face à l'île jumelle du sanctuaire, invisible dans la bourrasque de flocons. Bill avait enfoncé une toque en poil de ragondin sur sa tête. Cheyenne, un bonnet de laine pour protéger ses cheveux courts, et Wayne portait son éternel chapeau de cuir à large bord. Les trois enfants du château marchaient une cinquantaine de mètres devant eux, emmitouflés dans des habits étranges qui ne correspondaient à la couleur d'aucun poil, cuir ou laine d'animal connu, mais plutôt aux rayons de couleur envoyés par le soleil de fer pour fêter le birthday. Un manteau orange, un autre bleu ciel, un troisième rouge vif. Ces tenues étranges, pensait Bill, coordonnées à leur bonnet, avaient pourtant l'air de leur tenir chaud. Les trois enfants du château progressaient dans la neige, longeant le fleuve, s'aidant chacun d'un grand bâton. Où allaient-ils? Bill les espionnait depuis qu'ils avaient quitté la place de l'aiguille. C'était son idée, suivre les enfants du château. Eux sauraient où trouver à manger. S'ils ne chassaient pas, c'était qu'ils cachaient un secret. Pour l'escorter dans sa mission, dont il n'avait parlé à personne, pas même à Mordelia ou à Cannes, Bill avait choisi deux compagnons discrets. Cheyenne d'abord, l'une des filles les plus rapides du tipi, qui savait se servir d'un couteau et qui était l'une des seules à savoir encore lire. Dans la ville, surtout s'il s'approchait de ceux du château, cela pouvait toujours servir. Wayne ensuite, un petit rouquin, un peu crétin, mais fort comme un taureau, inarrêtable à balle d'autruche et toujours prêt à se bagarrer. Devant eux, le groupe du château n'était constitué que de deux garçons chétifs et d'une fille maigrelette. Depuis de longues minutes qu'ils les suivaient, Bill hésitait à les attaquer. Wayne et Cheyenne auraient pris le dessus sans difficulté, malgré les bâtons qu'ils portaient. Mais ensuite, une fois qu'ils disposeraient de trois prisonniers, comment leur faire avouer leur secret? De plus, attaquer des enfants de l'autre tribu à 2 semaines de la veillée du sanctuaire pourrait facilement provoquer une guerre. Mordelia serait furieuse. N'était-il pas trop tôt? N'était-il pas plus judicieux de les suivre? Oui, bien sûr, raisonna Bill. Il était fier de sa stratégie. Les suivre d'abord, découvrir où ils allaient, agir ensuite. Les enfants du château tournèrent en direction d'un grand parc boisé, dont les arbres, sagement alignés entre 2 larges allées, étaient recouverts de givre. Jardin des plantes, lut Cheyenne sur la barrière de l'entrée, en plissant les yeux sous l'averse de cristaux de neige. Bill et son escorte continuaient d'observer à distance les enfants du château, sans avoir besoin de beaucoup s'approcher. Les pas du groupe devant eux laissaient des marques dans la neige. Il était facile de les repérer, même si elles se mélangeaient parfois à des traces de pattes de chiens errants, de renards ou même de sangliers, qui s'aventuraient jusqu'en ville quand la forêt était gelée. À côté de Bill, Wayne luttait contre le vent froid, baissant sur ses yeux son chapeau, et Cheyenne tentait de s'emmitoufler dans sa veste de cuir à franges. Bill essaya de remonter au maximum sur son cou et son menton, son écharpe de poils. « Les conditions sont favorables !» se réjouissait-il. Des traces, un brouillard de coton qui les cachait. C'était tellement facile qu'il se perdait dans ses pensées et faisait défiler dans son cerveau les images des animaux de son livre. Il poursuivait son rêve, se voyait revenir au tipi en héros, portant un crocodile ou une antilope sur son dos. Depuis qu'il était interdit de chasser, à cause de cette étrange maladie, les animaux de son livre l'obsédaient. Tous ces animaux qu'on n'avait jamais vus dans la ville et qui pourtant existaient, il en était persuadé. Les enfants du château passèrent devant le grand bâtiment de pierre blanche, auquel menaient toutes les allées du parc, puis disparurent plus loin, se rapprochant à nouveau du fleuve. La neige cessait petit à petit de tomber. Les marques que les trois enfants laissaient derrière eux ne s'effaceraient plus. Leurs poursuivants pouvaient prendre leur temps. Jamais ils ne s'étaient aventurés si loin du tipi. Instinctivement, Bill s'approcha de l'immense bâtisse face à eux. Dans les jours qui suivraient, il se répéterait souvent et répéterait à tous ceux à qui il confierait son incroyable découverte, que c'était l'instinct qui l'avait poussé, comme si une voix dans sa tête lui avait parlé et qu'il savait à l'avance ce qu'il trouverait. « Muséum d'histoire naturelle », déchiffra Cheyenne derrière lui après avoir essuyé avec son gant la neige sur un panneau. Elle avait pour ordre de lire à voix haute les écriteaux qu'il croisait. C'était ainsi qu'il parvenait à mémoriser les ponts, les rues et les plus grands bâtiments. Bill frotta l'une des grandes fenêtres recouvertes d'une fine pellicule de glace pour observer l'intérieur de l'édifice. Il n'en crut pas ses yeux. Ça dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. En un instant, il comprenait pourquoi ceux du château ne chassaient jamais ni ne pêchaient. Ils venaient de percer leur secret. Et quel secret ! Bill l'avait toujours su au fond de lui. Beaucoup le prenaient pour un idiot au tipi. La plupart ne croyaient pas aux histoires qu'il racontait sur les rues de Paris, ou se moquaient de lui avec son livre d'images. Il tenait sa revanche, il tenait la preuve devant ses yeux. Cette fois, tous seraient bien obligés de l'écouter, de s'excuser, de le respecter. Il appela Wayne et Cheyenne d'une voix étouffée. Le garçon et la fille collèrent leur nez froid à la vitre glaciale, sans comprendre ce qu'ils voyaient. « C'est un squelette de baleine !» expliqua Bill sans parvenir à canaliser son excitation. « Un squelette de baleine bleue, le plus grand de tous les animaux, 30 mètres, aussi longue que 20 biches, plus lourde que 1000 sangliers. Vous vous rendez compte? Il y avait autour de ce squelette plus de viande que le fleuve et la forêt n'en contiendront jamais, même si on en pêchait et en abattait tous les animaux. Et vous voyez comme moi? Je ne rêve pas de cette baleine, il ne reste que les os. » C'était donc que les enfants du château avaient tout mangé, en concluait Bill. Ou avaient dépecé toute la chair du monstre marin et l'avaient conservé quelque part. Comme ils le faisaient eux aussi au tipi, avec la viande dès que le froid revenait, avant qu'elle ne soit empoisonnée. Wayne et Cheyenne observaient l'immense carcasse, peinant à croire ce qu'ils voyaient et entendaient. Comment un tel animal pouvait-il avoir nagé jusqu'ici? Il semblait presque plus large que le fleuve. Et comment ceux du château avaient-ils pu le transporter? Bill ne se souciait pas de ces questions. Il tentait de se concentrer sur la seconde phase de son plan. Il ne devait pas céder à l'euphorie. Les grands chefs se reconnaissent, pensait-il, à leur capacité à ne pas se laisser entraîner par leurs émotions. La phase 2, donc. Comment entrer? Les enfants du château stockaient-ils ici la chair de ce trésor dont il ne restait que les os? Les portes et fenêtres étaient fermées, mais en levant les yeux, Bill s'aperçut que le toit du bâtiment était constitué d'une grande verrière, comme la pyramide au centre du château. C'était un signe. C'était là. C'était leur cachette. Le mur ne semblait pas si difficile à escalader. Malgré leurs doigts engourdis par le froid et les lourds vêtements de cuir qu'ils portaient, ils parvinrent sans problème à atteindre le sommet du bâtiment. Ils s'aventurèrent sur le toit, marchant avec prudence sur les poutres métalliques qui maintenaient les plaques de verre. Progresser en équilibre sur des poutres de fer, ils savaient faire. De leur position en surplomb, ils allaient pouvoir détailler l'intérieur de ce muséum. Bill s'accroupit et, à l'aide d'une de ses moufles en peau d'écureuil, nettoya une vitre, puis s'allongea et se colla à la paroi. Wayne et Cheyenne, toujours en équilibre sur les poutres, le saisirent par les jambes, par précaution, au cas où le verre céderait. Heureusement, ce ne fut pas le verre qui céda. Ce fut Bill qui faillit le briser. Par une explosion de joie, il se retint de se lever, de sauter et de danser. Il avait gagné, au-delà de toutes ses espérances. Rien n'arrivait par hasard. Mordelia avait raison avec ses prédictions. À présent, il comprenait pourquoi il avait lu tant de fois son livre d'images d'animaux. Tout prenait un sens. Il était King Bill. Son destin était de sauver sa tribu. Il se colla à nouveau au plafond de verre pour bien vérifier que le miracle n'avait pas disparu. Mais non, il ne s'agissait pas d'un rêve. Une 20aine de mètres sous eux, sous la verrière, défilaient tous les animaux de ces livres en procession, comme lorsque les enfants se rendaient au sanctuaire. Des animaux en chair et en os. Il n'en manquait pas un seul. Bill reconnut l'éléphant et son éléphanteau en tête, deux hippopotames et un rhinocéros qui suivaient de près, Puis, quatre girafes, dont la tête s'approchait tant de la verrière qu'elles touchaient presque leurs poils. Venaient ensuite des antilopes, des zèbres, des gnous, des singes, un tatou, un phacochère, un léopard, un tigre, un lion, et tant d'autres bêtes sauvages qu'ils n'auraient pu ni les compter ni tous les citer. Bizarrement, les animaux semblaient marcher, mais sans bouger. Une chance de plus. Pour les attraper, plus besoin de courir. Il n'y avait qu'à se servir. Phase 3, pensa Bill en se relevant. Réfléchir. Il devait tirer le meilleur parti de ce trésor inépuisable. Des peaux à profusion, des toisons plus chaudes les unes que les autres, des cornes pour fabriquer des armes redoutables, et de la nourriture surtout, à n'en jamais manquer. Ils n'auraient plus jamais faim, ni eux, ni leurs futurs enfants, ni les enfants de leurs enfants. Bill réfléchissait à toute vitesse. La première réaction des enfants du tipi serait de ne pas le croire, de se moquer. Ce grand chef froussard Dakan le premier. Il demanderait à vérifier, montrait une expédition, et au lieu de s'incliner devant la vérité, il en tirerait toute la gloire. Non, analysa très vite Bill. Je dois conserver l'effet de surprise. Revenir avec les preuves, les agiter sous le nez d'Akan et des autres incrédules. Et ainsi, se faire acclamer King Bill Ier, puis s'installer au quatrième étage avec Mordelia. Bill fit promettre à Wayne et Cheyenne de ne rien révéler, surtout à Akan ou à Vanille, et redescendit du toit avec prudence. Quand il revint au tipi, il parvint à dissimuler son impatience et, dans la plus grande discrétion, parla à une dizaine de garçons et filles de confiance d'un secret à protéger, dont il ne pouvait rien dire pour l'instant, tout en réunissant le matériel nécessaire, des cordes surtout, des grands sacs, des poignards et des haches de pierre. Il attendit 3 jours, 3 jours et 2 nuits pendant lesquels il ne dormit presque pas, à tourner encore et encore les pages de son livre, à observer ces animaux de papier, immobiles, aussi immobiles que ceux, bien réels, sous la verrière. Il les avait vus, presque touchés. Il s'agissait de vrais animaux, de poils et de chair. Un matin, alors que le soleil était à peine levé et les rues glissantes de verglas, Bill et ses 10 complices se mirent en route. Bill leur avait fait promettre de ne pas parler de leur départ, surtout pas à Akan ou à Mordelia, et encore moins à cette petite rapporteuse de Chrysanthe. Quand ils reviendraient, les sacs chargés de nourriture nouvelle, tous partageraient ce moment de gloire. Ils n'eurent aucune difficulté en suivant le fleuve à retrouver le bâtiment. Cheyenne déchiffrait quelques noms de rues. Curie, Cuvier, Buffon. Ils ne croisèrent aucun enfant du château. La neige avait fondu et leur pas disparu. Ils n'eurent pas davantage de mal à escalader la façade de ce muséum et tous se retrouvèrent sur le toit de verre. Sans crainte qu'elle ne cède, l'aidant même à se briser en frappant à coups de pierre la vitre du toit. Ils accrochèrent ensuite des cordes aux poutrelles de fer et pénétrèrent dans le bâtiment en se laissant descendre jusqu'au sol. Ce n'était pas bien compliqué. Presque tous étaient habitués à glisser du tipi par une liane suspendue au premier étage sans prendre l'escalier. Les animaux n'avaient pas bougé. Ils les attendaient. Chrysanthe prétendait, quand elle regardait le livre d'animaux par-dessus l'épaule de Bill, que ces bêtes sauvages, ces panthères, ces lions ou ces tigres, si jamais elles existaient, seraient impossibles à apprivoiser, comme les chats, en 1000 fois plus dangereux. Chrysanthe et tous les autres se trompaient. Bill jubilait. Non seulement ces bêtes légendaires existaient, des hippopotames ou rhinocéros, mais elles étaient plus inoffensives qu'un escargot un jour de pluie ou qu'un lézard un jour de soleil. Immobile. Grande galerie de l'évolution, lut Cheyenne. Les 10 enfants se tenaient maintenant debout dans l'immense pièce, à quelques centimètres des animaux, 2 fois, 3 fois, 10 fois plus grands qu'eux. Bill toucha la trompe d'un éléphant. Wayne tâta les muscles d'un gorille. Chameleon caressa une plume d'autruche. Mook passa sa main dans la gueule d'un crocodile. tous semblaient hypnotisés par ces créatures extraordinaires qui paraissaient si vivantes et qui pourtant ne bougeaient pas plus qu'un animal mort, sans dégager la moindre odeur de charogne, sans que brille dans leurs yeux la lueur jaune des oiseaux et des rongeurs empoisonnés. Il n'y avait aucun risque à les manger. Bill emprunta le poignard de Cheyenne, c'était à lui que revenait le droit de se servir en premier. Quel animal commencerait-il à découper ? Pas l'antilope, elle ressemblait trop aux biches de la forêt. La girafe ? Non, elle serait trop encombrante. Un lion ou un tigre ? Une tête de lion, strictement identique à celui dans son livre, serait parfaite pour impressionner les enfants du tipi. Mais ne risquait-elle pas de trop les effrayer ? Il essayait de penser à tout, de façon organisée, comme un chef, comme King Bill, ce chef qu'il devenait, qu'il serait, puisqu'il avait triomphé. Il faudrait garder cette salle au trésor, jour et nuit, et laisser au moins 6 enfants devant la porte, armés, pour que ceux du château ne le reprennent pas. Il ne faudrait pas révéler aux autres enfants ce lieu, car tous alors voudraient se servir. Il devrait gérer la distribution des pots. Les plus belles et les plus chaudes seraient données à ceux et celles qui le méritaient, qui jureraient de lui obéir. Les moqueurs, Crisante, Agnel, et même Akane, tous ceux qui le méprisaient n'auraient que les restes, s'il en restait. Mais avant tout, il offrirait à Mordelia le plus beau des trophées. Ses défenses d'éléphant ou ses cornes d'antilope torsadées? Pour lui, il hésitait. Devait-il porter cette peau de zèbre en cape ou se coiffer de ces longs bois d'élan? Ne serait-ce pas trop lourd à porter? Est-ce qu'une gueule pleine de crocs de crocodile ne faisait pas plus d'effet pour King Bill? Mordelia serait sa reine. Mordelia, comme lui, maîtrisait le pouvoir des livres. Akane irait dormir avec les autres enfants malades au premier étage. King Bill installerait ses peaux de panthère et de léopard au 4e étage, avec cette carapace de tortue géante comme bouclier, et ses cornes de zébu pour accrocher ses habits. Les enfants du tipi mangeraient enfin à leur faim. Ils deviendraient forts. Ils auraient un vrai chef, lui. Alors, l'homme à la tête de lion, ou d'ours, ou de crocodile, descendrait de son étage et déclencherait la guerre. Sa tribu ne souffrirait plus jamais des grands froids, les jours d'après la veillée du sanctuaire. Il les passerait derrière les murs du château, bien au chaud. D'un pas solennel, Bill s'avança vers le lion pour en découper le cou. Il avait demandé à Wayne et Mook de placer en dessous du fauve un seau de roseau tressé pour en recueillir le sang. Puis ils goûteraient tous à la chair du fauve. Ce serait son premier festin offert au tipi. Une chair rare et délicate. La peau du lion se laissa découper plus facilement que Bill ne s'y attendait. Mais le sang ne coula pas, comme lorsque certains petits animaux sont morts, raidis par le froid, pensa-t-il. C'était la meilleure façon de les conserver, intacts, dans la glace. Leur viande se réchauffait ensuite rapidement si on l'exposait au soleil. La chair de ces animaux était donc gelée et donc parfaitement conservée. L'idéal, ils auraient à manger pour l'éternité. Le couteau de Bill s'enfonça plus profondément encore dans le cou du lion. Puis, quand l'entaille fut assez large, il y passa la main pour sentir la chair du bout des doigts. Sa main se referma, tira, se retira. Il tenait de la paille entre ses doigts. Stupéfait, il écarta la plaie à deux mains, la peau du lion s'ouvrit aisément sur les entrailles du fauve. De la paille ! Uniquement de la paille ! Pas de sang, pas de chair, seulement de la paille séchée et jaune, semblable à celle qu'il coupait dans les champs, celle sur laquelle il dormait, celle qu'il brûlait pour allumer le feu. Cette paille, banale et immangeable ! Impossible ! Aucun être vivant n'est constitué de paille ! Grande galerie de l'évolution, continuait de lire Cheyenne, la main en visière sous ses cheveux ras. 1802, Louis Dufresne, taxidermiste. Bill, pris d'une soudaine fureur, lacéra les flancs d'un zèbre, découpa la jambe d'un éléphant, écartela, avec l'aide de Wayne et Mook, la gueule d'un crocodile. Il saisit l'imposante mâchoire et l'écrasa de tout son poids sur un panda noir, le déchiquetant de toutes parts. De la paille, rien que de la paille, parfois de la fine sciure de bois. Les 10 enfants le fixaient. Est-ce qu'on pouvait manger de la paille? Bill sentait dans leur regard l'espoir déçu. Il s'était cru sauvé. Il resterait tout autant affamé. Agnel et ses compagnons n'étaient pas revenus de la forêt. Tous ceux qui touchaient aux oiseaux, aux poissons, tombaient malades. Leurs réserves de fruits secs et de graines s'épuisaient. Mais plus encore que de la déception, Bill devinait autre chose dans le regard de Cheyenne et de tous les autres. Il ne le regardait plus comme un chef. Il pouvait bien se coiffer d'une tête de lion, s'appeler King Bill, ça ne changerait rien. Il le regardait comme le plus stupide des enfants. Celui qui ne sait pas lire, celui qui croit aux images des livres, celui qui croit aux choses qui n'existent pas, celui qui n'est qu'un rêveur imbécile. Tout l'inverse d'un chef, tout l'inverse d'Akan. Mook et sa carrure d'ours, Wayne et ses épaules de taureau, le fixaient avec plus de colère encore, avec férocité. Une férocité d'animal affamé. Tout à coup, Bill se mit à regretter que son corps ne soit pas en paille. Il avait l'impression terrifiante que sa seule utilité désormais aux yeux de ses amis était d'être découpé au silex, puis dévoré.